Chapitre 2. Élaborer une ligne argumentative. Nous savons désormais discerner les différents types d'arguments tout en étant capables de distinguer pour chacun d'eux la rigueur de l'efficacité. Mais l'essentiel est encore devant nous, savoir élaborer une véritable ligne argumentative, c'est-à-dire un ensemble d'arguments articulés les uns aux autres en un système cohérent. À cette fin, nous avons dégagé une méthode qui se décline en trois étapes. Dans un premier temps, nous faisons l'inventaire de tous les arguments disponibles et déterminons leur degré de rigueur. Dans un deuxième temps, nous étudions notre auditoire afin d'évaluer quels arguments présentent le plus haut degré d'efficacité face à lui. Dans un troisième temps, nous construisons une ligne ordonnée en prenant en compte tout à la fois la rigueur des arguments, leur efficacité, ainsi que notre propre subjectivité. 1. Déterminer la rigueur. L'élaboration d'une ligne argumentative commence par un recensement. Nous notons scrupuleusement l'ensemble des arguments auxquels nous sommes en mesure de penser. Tout ce qui peut venir appuyer notre position est livré au répertoire. Lors de cette première étape, aucun tri ne doit intervenir. Nous ne nous limitons pas aux arguments que nous jugeons acceptables ou recevables. Au contraire, nous envisageons tous les possibles, tous les imaginables. Cette première opération terminée, nous contemplons une longue liste d'arguments. Nous recherchons alors l'ensemble des objections que nos interlocuteurs seraient susceptibles de leur opposer. Puis, nous réfléchissons aux réponses que nous pourrions apporter à ces objections. Cela revient, de fait, à déterminer la rigueur de chacun de nos arguments. Enfin, nous prenons le temps de compléter ce travail en adoptant le point de vue de nos interlocuteurs. Si nous en avons, nous listons les arguments à l'appui de leur propre position, ainsi que les objections que nous pourrons nous-mêmes leur opposer. Au terme de cette opération, nous disposons d'une représentation dynamique de la controverse. Sous nos yeux s'entrecroisent et se répondent l'ensemble des arguments et contre-arguments qu'il nous est possible de concevoir. Il s'agit d'une véritable cartographie argumentative ou, pour parler comme Cicéron, d'un inventaire. Cette cartographie est un outil formidable. D'un point de vue stratégique, elle nous permet de savoir à l'avance quels arguments nous sont favorables et devrait résister aisément à la contradiction. À l'inverse, elle nous permet d'identifier les terrains glissants, où les objections sont fortes et risquent de nous placer dans une position inconfortable. Nous allons ainsi pouvoir fourbir nos armes. Le temps de l'argumentation venu, nous serons sereins. Nous n'aurons plus qu'à appliquer nos attaques et nos ripostes, tel un escrimeur bien affûté. Bien évidemment, les débats ne se déroulent jamais comme prévu. Malgré tout notre sérieux, nous finirons toujours par rencontrer un argument ou une objection que nous n'avions pas envisagé. Il faudra alors nous adapter, voire réévaluer totalement notre stratégie. Il n'empêche, mieux nous serons préparés, plus nous aurons de chances de convaincre ou de vaincre. 2. Évaluer l'efficacité. Nous l'avons déjà dit, les arguments ne sont jamais efficaces en eux-mêmes. Ils le sont uniquement à l'égard d'un auditoire donné. La deuxième étape dans la construction d'une ligne argumentative consiste précisément en cela : sélectionner, parmi l'ensemble des arguments disponibles, ceux qui auront de l'impact sur les personnes auxquelles nous nous adressons, ici et maintenant. Pour cela, il nous faut déterminer les leviers de conviction sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer. De quelles informations les auditeurs disposent-ils d'ores et déjà? Quels énoncés considèrent-ils comme vrais? Dans quelles valeurs se reconnaissent-ils? À quoi ressemble leur vision du monde? En termes rhétoriques, nous disons que nous recherchons les prémices que nous pouvons mobiliser. Ce sont elles qui déterminent les arguments à privilégier. Encore nous reste-t-il à savoir comment découvrir ces prémices. Ici, la situation est très différente selon que nous nous adressons à des auditeurs passifs et silencieux, contexte monologique, ou que nous cherchons à convaincre des interlocuteurs avec lesquels nous dialoguons, contexte délibératif. En contexte monologique, une approximation. En tant qu'oratrice ou orateur, dans un contexte monologique, nous ne disposons que d'informations très partielles sur notre auditoire. Si celui-ci est très vaste, plusieurs centaines de personnes dans une salle de conférence par exemple, les seules connaissances que nous pouvons mobiliser sont sociologiques. Nous allons tenter de déterminer, avec plus ou moins de précision, le profil des auditeurs que nous avons en face de nous. Âge, sexe, lieu de résidence, niveau de diplôme, catégorie socio-professionnelle, identité culturelle. Ce portrait robot, aussi imparfait soit-il, constituera le socle sur lequel nous fonder pour choisir nos arguments. Nous trouvons-nous face à un auditoire uniforme et homogène, nous pourrons alors recourir à des arguments très spécifiques. Au contraire, nous trouvons-nous face à un auditoire mosaïque et hétérogène, nous devrons dans ce cas trouver une autre stratégie. Soit en utilisant un ensemble d'arguments très ciblés, chacun étant adapté à une partie de l'auditoire, soit en choisissant des arguments à large spectre, susceptibles de parler à tout le monde, tout en étant particulièrement percutants pour personne. Si notre auditoire est davantage restreint, une poignée de personnes dans une salle de réunion par exemple, nous allons pouvoir mobiliser également des connaissances psychologiques. Le fait que nous soyons physiquement proches de nos auditeurs, que nous puissions lire aisément leurs réactions, que nous ayons pu nous entretenir brièvement avec eux avant de prendre la parole, voire que nous les connaissions personnellement, tout cela va nous permettre de nous adapter avec une meilleure précision. Dans une telle situation, notre ligne argumentative ne peut en aucun cas être standardisée. Elle doit avoir été élaborée pour cet auditoire particulier, puis être modifiée en temps réel en fonction des réactions que nous voyons se manifester. En contexte délibératif, une investigation. La situation change du tout au tout dès lors que nous nous trouvons face à des interlocuteurs avec lesquels nous interagissons et que nous cherchons à convaincre. Dans ce contexte, notre ligne argumentative ne peut plus se contenter d'avoir été grossièrement adaptée à nos auditeurs. Elle doit avoir été confectionnée sur mesure pour eux. Pour accomplir ce travail de haute couture, nous disposons d'un outil formidable et trop souvent sous-estimé, l'écoute. Avant de commencer à argumenter, nous allons d'abord laisser parler nos interlocuteurs. Nous pourrons ainsi analyser avec précision les arguments qu'ils emploient, les prémices sur lesquelles ils s'appuient, les comparaisons qui leur parlent, les expressions qu'ils utilisent, les mots qu'ils privilégient. Au fil de cette investigation, nous dressons progressivement non plus le profil, mais bien le portrait rhétorique de nos interlocuteurs et faisons évoluer en conséquence le choix de nos arguments, mais aussi de notre syntaxe, de notre lexique et de nos analogies. L'idée n'est évidemment pas de singer les individus que nous avons face à nous, simplement de formuler les messages qui leur conviendront au mieux. C'est tout le paradoxe de la rhétorique délibérative. Dans un premier temps, moins nous parlons et plus nous avons de chances d'emporter la conviction. 3. Construire la cohérence. Nous avons dressé l'inventaire des arguments disponibles à l'appui de notre position, déterminé leur degré de rigueur, évalué leur efficacité respective sur nos auditeurs. Il ne reste plus qu'à construire notre ligne argumentative en sélectionnant les arguments que nous allons effectivement utiliser. Voici venue enfin l'heure du choix. Pour les oratrices et les orateurs, cette étape cruciale sera souvent celle non pas d'une difficulté technique, mais bien d'un dilemme éthique. Le paradoxe du bon élève, avoir raison et échouer à convaincre. Nous devons être préparés à une éventualité que les arguments les plus rigoureux dans l'absolu se révèlent n'être pas les plus efficaces au regard de notre auditoire. Des arguments très solides peuvent se révéler totalement inadaptés en certaines circonstances, par exemple s'ils exigent au préalable des connaissances techniques approfondies. À l'inverse, des arguments fragiles peuvent parfois se révéler très percutants, notamment lorsqu'ils sont fondés sur l'exemple ou le bon sens. C'est le paradoxe du bon élève. On peut parfaitement avoir raison, non pas au sens d'être dans le vrai, mais simplement d'employer les arguments les plus rigoureux, avoir raison donc, et échouer à convaincre. En rhétorique, les arguments les mieux construits ne seront pas toujours ceux qui convaincront le plus. Il arrivera que la voie la plus simple pour atteindre nos auditeurs passe par l'utilisation des arguments les moins solides. Dans ce cas, que ferons-nous ? Céderons-nous à l'appel de l'efficacité, au risque de compromettre notre éthique ? Ou bien nous tiendrons-nous à notre exigence de rigueur, au risque de trahir nos idées ? Il n'existe évidemment aucune bonne réponse à ce dilemme. Seulement un choix, un arbitrage entre rigueur et efficacité que nous devrons trancher et assumer. Le paradoxe de l'orateur aveugle, avoir raison et ne convaincre que soi-même. Un autre dilemme se doit d'être élucidé, peut-être le plus difficile de tous. Depuis le début de ce chapitre, il y a une question que nous n'avons jamais évoquée, celle des arguments que nous considérons nous-mêmes, en tant qu'oratrice ou orateur, comme les plus importants. Ceux qui sont efficaces sur nous et que nous risquons donc de vouloir utiliser à tout prix. Adapter notre ligne argumentative à notre auditoire ne suppose pas seulement que nous ayons réussi à en dresser le profil ou le portrait. Il faut également que nous soyons parvenus à voir au-delà de notre propre système de valeurs et de représentations. Notre point de vue subjectif nous pousse souvent à surévaluer le poids des arguments que nous estimons, nous, être convaincants. Souvent d'ailleurs parce que ce sont ceux qui nous ont convaincus. C'est le paradoxe de l'orateur aveugle. On peut parfaitement avoir raison, non pas au sens d'être dans le vrai, mais d'employer les arguments que l'on considère soi-même comme les plus efficaces, avoir raison donc, et échouer à convaincre. Convaincre suppose donc de délaisser un temps notre propre point de vue afin d'adopter celui de nos auditeurs. Et hélas, cela se révèle souvent plus facile à dire qu'à accomplir. Il peut être douloureux de laisser de côté un argument qui apparaît, à nos yeux, comme incontournable. Nous pourrions même aller plus loin et nous demander si cela serait totalement éthique. Dans quelle mesure est-il sain, pour convaincre, de nous oublier nous-mêmes, de renoncer à nos arguments du cœur que nous avons chevillés au corps pour nous contenter de caresser notre auditoire dans le sens du poil? Ne toucherions-nous pas ici la frontière qui sépare la rhétorique de la démagogie? Heureusement, il est possible d'atténuer la cruauté d'un tel dilemme en précisant qu'au sein de notre ligne argumentative, les arguments n'ont pas nécessairement le même poids ni la même place, bien au contraire. Admettons que nous tenions absolument à avancer un argument spécifique tout en sachant qu'il risque de se révéler peu efficace, voire contre-productif. Plutôt que de nous acharner à vouloir articuler notre ligne autour de cet argument du cœur, commençons par mettre en avant une argumentation efficace, apte à convaincre nos auditeurs. Dans un deuxième temps, quand nous estimerons que cette ligne aura porté ses fruits et que notre travail de conviction aura été accompli, peut-être trouverons-nous l'occasion d'ajouter un dernier argument, celui auquel nous tenons tant. Il n'aura alors pas pour objectif de convaincre, seulement d'être accepté. Il ne vient pas soutenir notre position, il en découle. Cette technique n'est pas sans danger. À chaque fois que nous ajoutons un argument supplémentaire, non seulement nous augmentons le temps dont nous avons besoin pour emporter la conviction, mais de surcroît, nous prêtons le flanc à de nouvelles objections. Nous y reviendrons. Notre argument du cœur risque donc de nuire à l'efficacité de notre ligne globale plutôt que d'y contribuer. Pour cette raison, mieux vaut d'ailleurs veiller à le formuler de la manière la plus brève et simple possible. Si elle est bien utilisée, cette structure nous permet de rester alignés avec les arguments qui comptent le plus à nos yeux, sans avoir à faire de compromis trop coûteux. Enfin, on ne peut se passer de dire quelques mots ici d'un facteur psychologique dont l'importance peut se révéler décisive. Lorsque nous portons un argument du cœur, il est probable que nous le fassions avec d'autant plus d'ardeur, de fougue, de passion, bref, de conviction. Or, comme nous le verrons plus loin, un des principes clés de la rhétorique dispose justement que plus nous paraissons convaincus et plus nous avons tendance à en devenir convaincants. C'est une chose que nous ne devons pas oublier. Le bon argument peut être rigoureux, efficace ou incarné. La ligne argumentative, un arbitrage entre rigueur, efficacité et subjectivité. En définitive, élaborer une ligne argumentative implique de parvenir à concilier trois besoins : l'impératif d'efficacité, l'exigence de rigueur et l'attraction de la subjectivité. Or, cet arbitrage relève moins d'un calcul froid et objectif que d'une forme de négociation avec nous-mêmes. À quel tiraillement allons-nous donner la priorité ? Celui de contribuer à la qualité du débat en mettant en avant les arguments qui nous semblent les plus solides, celui d'être avant tout aligné avec nous-mêmes, notre point de vue, nos convictions, ou celui de faire triompher notre position, quoi qu'il en coûte. Il n'existe aucune formule magique permettant de répondre en toutes circonstances à de telles questions. Seulement une méthode susceptible de nous guider dans l'élaboration de notre ligne argumentative. D'abord, nous isolons tous les arguments que nous estimons suffisamment rigoureux pour être utilisés. Parmi eux, nous sélectionnons ceux qui seront les plus efficaces sur nos auditeurs. Si, hélas, aucun argument rigoureux ne nous semble suffisamment impactant, il faut alors nous demander dans quelle mesure nous acceptons d'aller puiser au sein d'arguments moins bien construits. Au terme de ces opérations, il nous reste encore à réexaminer les arguments que nous aurions été amenés à écarter alors qu'ils nous tenaient particulièrement à cœur. Si notre ligne argumentative nous semble robuste, peut-être pouvons-nous nous permettre de les réintroduire sous une forme brève et simplifiée. 4. Un exemple de construction. Lors d'une soirée avec des amis, je tente de les convaincre que nous devrions supprimer la viande de notre alimentation. Il existe, à l'appui de cette position, trois arguments principaux. Tout d'abord, un argument par l'écologie, très rigoureux. De nombreuses études s'accordent sur le fait que la consommation de viande est une source importante de gaz à effet de serre. Ensuite, un argument par la morale, tout aussi rigoureux. Des centaines de documents montrent que l'abattage des animaux et, souvent, leur élevage, se déroule dans des conditions d'extrême souffrance. Enfin, un argument par la santé, une consommation de viande trop importante exposerait à de nombreux problèmes médicaux. Il est, lui, davantage contestable. S'il est vrai qu'une alimentation végétarienne peut être parfaitement équilibrée, il en va de même pour un régime carné. Imaginons maintenant que, à titre personnel, ce soit l'enjeu écologique qui m'est amené à arrêter de consommer de la viande. Hélas, je connais mes amis, ils ne se sentent nullement concernés par le réchauffement climatique. Malgré sa rigueur, cet argument serait donc parfaitement inefficace. Pire, il risquerait de me faire passer pour un rabat-joie et nuirait à mes chances d'emporter la conviction. Je sais, en revanche, qu'une partie de mes interlocuteurs se sentent touchés par la souffrance animale. Avec eux, je vais pouvoir m'appuyer sur l'argument moral en attirant leur attention sur les conditions insupportables dans lesquelles les bêtes sont abattues. Il me reviendra, évidemment, de soulever ce point avec un mélange de subtilité, pour ne pas brusquer mes auditeurs, et d'insistance, afin qu'il conserve tout son impact. Nous verrons comment atteindre un tel équilibre au fil des parties suivantes. Cela étant fait, il me restera encore à m'adresser à mes amis qui ne se préoccupent ni de l'environnement, ni du bien-être animal. Avec eux, je peux toujours soulever l'argument de santé publique en leur expliquant que la consommation de viande nuit directement à leur espérance de vie. Il ne s'agirait pas à proprement parler d'un raisonnement erroné. Dans les pays occidentaux, de nombreuses personnes ont un régime trop carné. Mais il n'est pas rigoureux pour autant. Mes amis pourraient rééquilibrer leur alimentation sans arrêter totalement la viande. L'argument est donc fragile, sinon même fallacieux. Vais-je l'utiliser malgré tout ? M'en servirais-je comme d'un levier pour convaincre d'une position que j'estime vertueuse, tout en ayant conscience de me compromettre avec une argumentation insidieuse ? Pris en tenaille entre mes auditeurs et mon éthique, il ne tient qu'à moi d'arrêter une position rhétorique. Ajoutons deux remarques pour finir. Premièrement, si l'argument par la santé reste critiquable quand il est employé pour étayer ma proposition, il peut en revanche être utilisé en toute rigueur pour contrer certaines objections. Il s'agit en effet d'une réponse parfaitement admissible au contre-argument classique, mais erroné, selon lequel il faut manger de la viande pour être fort et en bonne santé. Deuxièmement, l'argument écologique, bien qu'inefficace dans le contexte que nous avons imaginé, n'est pas condamné pour autant à être banni de ma ligne argumentative. Si je sens que mon plaidoyer a eu de l'impact, que mes interlocuteurs ont déjà commencé à réviser leurs opinions initiales et qu'ils disposent encore d'un peu d'attention à me consacrer, je peux tenter de pousser mon avantage en mentionnant brièvement le fait qu'une alimentation végétarienne est bonne pour l'environnement. L'argument ne participera probablement pas à emporter la conviction, mais il pourrait toutefois être reçu comme acceptable. J'aurais ainsi été fidèle à mes opinions en ne renonçant pas à mentionner mon argument du cœur. Mieux, sur le long terme, il s'agit d'une petite graine que je viens de planter. Qui sait si, dans quelques mois ou années, je n'aurai pas le plaisir de voir germer de nouvelles convictions écologiques.